VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, de retour dans son pays aujourd'hui après 2 mois d'absence à Londres pour raisons médicales, a annoncé ce vendredi qu'il laissait les rênes du pouvoir à son vice-président Yemi Osinbajo pour continuer à se reposer. Le chef de l'État âgé de 74 ans a fait cette déclaration lors d'une réunion politique sans préciser quand il compte reprendre les rênes du pouvoir. Le vice-président Osinbajo dirige le pays depuis le départ du président Buhari à Londres le 19 janvier. Et toujours concernant le Nigeria, les prochaines élections présidentielles et législatives dans le pays se tiendront le samedi 16 février 2019 et celles des gouverneurs le samedi 2 mars 2019, a annoncé jeudi soir l'INEC, la Commission électorale nationale. La publication de ce calendrier, 2 ans avant les échéances, vise à promouvoir une organisation optimale pour les partis politiques, les agences de sécurité, les candidats et tous les acteurs des scrutins, a précisé l'INEC. Au Burkina Faso, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti du président burkinabé Rochmar Christian Kabore, tient son congrès ce vendredi à Ouagadougou dans une atmosphère tendue. Motif de cette tension, la lutte fratricide que se livrent ses leaders, Azuma Compaoré.
Depuis son élection, Roch Kabore a laissé la présidence du parti à Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, qui assure l'intérim. Ténor de la politique burkinabé, longtemps bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, ce dernier est connu pour son franc-parler et son expérience politique. Fondé en 2014 par messieurs Kabore, Diallo et l'actuel ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, le parti connaît une guerre ouverte. En face, l'opposition a dénoncé un tricéphalisme au sein de l'État en référence au trio fondateur. C'est à un affrontement à peine feutré que les ténors du MPP se livrent, le parti étant plus que jamais divisé en clans dont on voit l'animosité se manifester à tout bout de champ, accuse un membre influent de l'opposition, Alphonse Marie Ouedraogo. Un parti peut vivre ces moments et on croit que c'est la bagarre, que c'est l'implosion. Non, ce n'est pas le cas, nuance Djedjouma Sanon, membre du bureau politique national du MPP. Plusieurs observateurs voient le président du parti, Salif Diallo, maintenu à la tête du parti à l'issue du congrès, si la charpente du bureau exécutif avec un président est maintenue.
La situation au Burundi a fait l'objet de discussions hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Djamal Benoban, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, a souligné à cette occasion la fragilité de l'environnement sécuritaire dans le pays, un chômage endémique chez les jeunes en particulier, et la détérioration de la situation humanitaire. L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro, a tenu à relativiser les faits. On l'écoute.
Je ne dis pas que tout est parfait au Burundi, mais je dis que nous avons enregistré des progrès tangibles en matière des droits de l'homme, mais que nous avons encore quelques défis à relever. Le meilleur moyen, ce n'est pas de continuer à mettre des pressions politico-diplomatiques sur le gouvernement du Burundi. Nous sommes sous pression depuis 2015. C'est le moment de tourner la page et de commencer de regarder devant nous et pouvoir effectivement évoluer en matière de protection des droits de l'homme. Donc nous sommes très engagés, nous attachons une grande importance à la question de la protection des droits de l'homme, mais certains cas ont été vraiment gonflés, exagérés. Je donne cet exemple des cas de disparition forcée. Vous savez, c'est un phénomène global qui touche pratiquement tous les pays, mais quand ils donnent des chiffres parachutés comme ça, c'est inquiétant parce que nous savons qu'il y a quand même quelques cas où des gens ont quitté le Burundi pour subir des entraînements paramilitaires dans les pays voisins. Ils ont été automatiquement déclarés personnes disparues.
L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro. RDC, plus de mois après le décès du leader du rassemblement de l'opposition Étienne Tshisekedi à Bruxelles, sa dépouille continue à être au centre d'une polémique dans son pays natal. Le frère cadet du défunt, Mgr Gérard Moulumba, explique pourquoi le site retenu pour la dernière demeure du disparu n'a pas eu l'assentiment de tous.
J'ai trouvé que à Kinshasa, la base du parti, c'est le parti de l'UDPS, et même tout le monde, pratiquement, je n'ai vu personne qui dit que cet endroit convient pour l'immigration. Donc, tout le monde était contre. D'ailleurs, moi-même, j'étais menacé parce que c'était moi qui avais fait la libération de Bruxelles. Alors, il disait qu'il n'était pas du tout d'accord, il faut absolument changer de place. C'est-à-dire que j'ai appelé l'autorité de la ville. à qui j'ai exprimé cela, que la famille adhère à cette opinion qu'il faut trouver une autre place. Mais nous attendons le retour du gouverneur, qui doit arriver peut-être aujourd'hui ou demain paraît-il à Kinshasa. Alors nous allons de nouveau rediscuter d'une autre place. On ne peut pas maintenir la même date, non.
Le frère cadet d'Étienne Tshisekedi, Monseigneur Gérard Moulumba, évêque de Mweka, dans le Kasaï, en RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, les agents de santé observent une grève illimitée, très suivie dans les centres médicaux. Les grévistes revendiquent des augmentations de salaire, des primes et des moyens adéquats pour faire face aux besoins des malades. Cette grève est la conséquence directe de l'absence de vrai dialogue entre les syndicats de la santé et les autorités de tutelle, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
La grande porte est ouverte. Peu d'affluence, les parkings pour les motos sont vides. C'est le constat qu'on pouvait faire ce jeudi matin devant le centre de santé du quartier populaire Banankabougou. La raison est toute simple, les agents de santé sont en grève illimitée.
Mon nom c'est Bakary Monzondiara, je suis le directeur technique du centre de santé de Banankabougou. Vous savez bien, il y a plus de 2 mois, on avait lancé une préavis de grève illimitée aussi. On a négocié, ils nous ont dit de reprendre le travail, que dans 21 jours, ils vont nous donner des résultats. Et ça fait plus de 2 mois maintenant, il n'y a pas eu de résultat. Ça a été un peu un sabotage parce que les propositions qui ont été faites, non seulement ceux qui ont été acceptés n'ont pas été exécutés, mais n'ont pas reçu d'écho favorable. Voilà, la situation est ainsi. Donc vraiment, nous sommes désolés, on est obligés. Parce que le Mali, quand tu ne parles pas, on a l'impression que tu n'as pas de besoin. Et notre situation est telle que vraiment, vraiment ça ne va pas.
Au niveau du centre de référence de la commune 6 du district de Bamako, aucun mouvement. Dans les couloirs, c'est le silence des cimetières. Il faut aller vers les urgences pour voir les rares agents qui travaillent.
Samake Moussa, secrétaire général adjoint du syndicat de la santé en commune 6. La grève pour nous ici, ça a été total. À part les urgences, personne n'a fonctionné. La continuation de la grève, c'est ce qui a été souhaité par le sommet. Il y a une négociation qui est en cours et à l'issue de cette négociation, nous verrons ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir ça. La suite dépend des résultats des négociations.
En cette première journée de grève illimitée, dans les établissements sanitaires étatiques, ce n'est pas la grande affluence dans les cliniques privées.
Je suis Dr Kamara Lamine, je suis médecin généraliste permanent aux cliniques Bana. Bon, nous ne sommes pas en grève parce que nous ne sommes pas. C'est un de nos collègues qui est venu qui disent qu'ils sont en grève. Bon, on n'a pas reçu de préavis de grève, on n'a pas été informé aussi. Parce que si ça concerne nos droits, nous sommes obligés d'aller en grève. C'est pour réclamer nos droits. Mais il y aura le service minimum quand même, quel qu'en soit. Par rapport aux autres jours, c'est toujours monotone. Parce que nous sommes en période c'est une période presque une période morte.
Dans les centres de santé publique, le service minimum est observé, mais pas à la satisfaction des patients.
C'est une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire malien. Nous suivons cette grève depuis ce matin. Hein. Donc, oui, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui font des va-et-vient pour des soins ou pour des consultations, mais il n'y a pas de service minimum, sauf à la maternité, pour les urgences obstétricales. Sinon, il n'y a pas d'injection, pas de pansement, pas de consultation.
Cette grève illimitée est la deuxième de cette année 2017 au Mali. Elle fait suite à celle des magistrats qui avaient eu gain de cause. Les agents de santé souhaitent le même traitement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a annoncé hier que son organisation allait fournir aux entreprises technologiques un accès aux méthodes de piratage de la CIA pour leur permettre de remédier aux failles de leur propre logiciel. Jacques Aristide.
Wikileaks a publié cette semaine des documents décrivant les méthodes secrètes de piratage de la CIA et des bouts de code informatique, mais elle n'a pas publié les programmes complets qui seraient nécessaires pour réaliser des cyberattaques contre des téléphones, des ordinateurs ou des récepteurs de télévision. Lors d'une conférence de presse hier via Facebook Live, Julian Assange a indiqué que Wikileaks allait travailler avec les fabricants d'appareils électroniques en leur donnant des détails techniques supplémentaires afin qu'ils puissent apporter des corrections pour gagner en sécurité. Le groupe Apple a réagi pour dire que les brèches de l'iPhone avaient déjà été colmatées. Assange affirme être en possession d'une foule d'autres renseignements sur le cyberarsenal de la CIA qui seront rendus publics prochainement. Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré hier que le président Donald Trump était très préoccupé par la publication d'informations secrètes qui affaiblit la sécurité nationale américaine. Le président, dit-il, est d'avis que les systèmes de la CIA sont obsolètes et doivent être modifiés.